Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, 14-18, petite musique d'une grande guerre, raconte l'exil forcé de Stravinsky sur la rivière alémanique, sa rencontre avec Ernest Ansermet, Louis-Ferdinand Ramu et la naissance de l'histoire du soldat, une émission d'Antonin Scherrer.
Le hasard des lieux, le hasard des rencontres, celui des circonstances historiques aussi, les convulsions du monde qui détruisent les rêves, des vies entières, mais forgent aussi de nouveaux possibles. Comme beaucoup d'autres, anonymes ou célèbres, Igor Stravinsky a choisi la Riviera vaudoise pour poser ses valises l'été dès le début des années 10. Son épouse a une santé fragile et, l'on dit, le climat des bords du Léman et des stations de montagne avoisinantes propice à la régénération du corps et de l'esprit. Face aux vagues paisibles du lac et loin des bruits de l'histoire, une histoire dans laquelle il a néanmoins déjà sauté des deux pieds avec L'Oiseau de feu, Le Sacre du printemps et Petrouchka, dont il a écrit certaines pages dans un grenier de Jonny au-dessus de Vevey, avec le portrait de Claude Debussy face à son piano, ainsi qu'au château du Châtelard sur les Hauts de Montreux, où sont venus le trouver Diaghilev et Nijinsky, car on parle bien sûr de ballet russe. Dès 1911, c'est Claran, le bord du lac, à côté de Montreux, et à 30 mètres de la villa La Pervenche, où vit un jeune chef d'orchestre vaudois qui dirige, c'est un hasard, mais on parlera plus tard de destin, beaucoup de musique russe à la tête de l'orchestre du Kursaal de Montreux. Il s'appelle Ernest Ansermet et ils sont presque contemporains. Le mentor d'Ansermet, Robert Godet, lui écrit « Savez-vous que tout près de vous, à Claran, il y a aussi un jeune homme russe, Igor Stravinsky, qui a le génie instinctif de la couleur et du rythme. Je suis sûr que lui et sa musique vous plairaient infiniment. C'est fait en pleine patte orchestrale, sans intermédiaire. » La rencontre a lieu, le courant passe immédiatement, impossible de résister au terrible petit bonhomme aux grosses lunettes. Le 2 avril 1914, Ansermet dirige au Kursaal la symphonie en mi bémol, la première de Stravinsky, dont il a fait venir la partition de Russie. Il invite 12 jours plus tard Stravinsky à en diriger le scherzo. C'est la première fois que le compositeur tient la baguette. On peut dire désormais que Stravinsky est grand et qu'Ansermet est son prophète. Les deux hommes se sont trouvés. commerce intime de Stravinsky m'a indiqué un mode d'être à la musique autre que celui que je tenais de notre culture, confie Ansermet. Ansermet a cela d'appréciable qu'il nous révèle la parenté de la musique d'aujourd'hui avec celle d'autrefois par des moyens purement musicaux, répond Stravinsky. Des perspectives immenses qui devront dans l'immédiat composer avec la guerre.
Je passais mes vacances à Salvan.
Ernest Ansermet.
Stravinsky vint me rejoindre à Salvan. Nous étions ensemble lorsque le 1er août, nous vîmes sur les murs la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Stravinsky comprit à ce moment-là que son retour à son pays était très compromis, que sans doute il allait perdre la maison qu'il possédait à Ostilug, et c'était évidemment pour lui des événements assez tragiques et qui furent encore plus tragiques au fur et à mesure que la guerre se développa. Évidemment, pour moi, cette période est toute pleine de la composition de Stravinsky. J'étais constamment chez lui, ou bien il venait chez moi, nous nous voyions avec Ramu, avec tous ceux des cahiers vaudois avec lesquels il s'était lié intimement, et il était des nôtres, il était devenu, au fond, complètement vaudois, au point même de passer l'été au Diableret et de connaître le régime des petites pintes où on prenait deux décis de vin blanc bien frais. Tout ce séjour de Stravinsky à Clarens et à Morges a été donc marqué par une production extraordinairement riche de sa part. C'est un moment de son activité créatrice qui restera, je pense, capital. C'est peut-être là qu'on trouvera même les témoignages les plus précieux de ce qui fait sa génialité propre. Et je pense qu'à cet égard, nous pouvons être très heureux d'avoir eu cet hôte dans notre pays et de l'avoir vu s'assimiler et se rapprocher de nous aussi intimement qu'il l'a fait.
Noces, la plus belle et la plus typiquement russe des créations de Stravinsky, dit Diaghilev, qui accueille le compositeur en mars 1915 dans sa propriété de Bellerive sur les bords du Léman à Lausanne. Compose vite Noces, j'en suis amoureux. Stravinsky s'est installé à Clarens chez Ansermet juste après la déclaration de guerre. Ansermet, dans l'orchestre cosmopolite du Kursaal, s'est dispersé et qui a dû, la mort dans l'âme, rejoindre Lausanne pour enseigner les mathématiques, car il faut bien gagner sa vie. Stravinsky aussi manque de tout et la famille à charge. En août 14, il reçoit 2500 francs suisses du chef Thomas Beecham pour continuer à écrire. Même somme l'année suivante de la princesse Edmond de Polignac pour lui écrire une pièce capable de tenir dans son salon. Ce sera « Renard » sur des mots de Ramu. Noces, donc, des poésies populaires typiquement russes, glanées en Russie en juillet 14 et ramenées en Suisse in extremis juste avant l'embrasement général par Varsovie, Berlin et Bâle. Mais une composition essentiellement suisse, géographiquement et même spirituellement. En janvier-février 1915, les Stravinsky sont à l'hôtel Victoria de Châteaudet, dans les Préalpes au-dessus de Montreux. Les conditions sont précaires pour travailler un local sans chauffage, jouxtant un poulailler, puis une petite chambre chez l'habitant où l'on installe péniblement un piano. Depuis le début du siècle, un petit train touristique baptisé Montreux-Oberland-Bernois relie le lac aux montagnes et à ses stations très prisées, Rossinières et son grand chalet, Châteaudet et sa colonie anglaise, Rougemont, Gstaad et son palace. Hasard cocasse, le compositeur y a rendez-vous avec l'inspiration un jour où il redescend à Clarens. Le bruit mécanique des essieux en basse continue, le chant de deux vaudois ivres par-dessus et les noces qui s'étoffent. Comme à la suite de cette rencontre à Genève, favorisée par Hans Hermé avec le cymbaliste hongrois Aladar Rács, qui passe toute la première guerre dans la cité du bout du lac et qui incite Stravinsky à inclure l'instrument tzigane dans sa partition. Stravinsky en passe de devenir complètement vaudois, nous dit Hans Hermé, cela par le long séjour sur les rives du Léman, qui de la Riviera se poursuit dès avril 1915 à Morges, à la Villa Rogivu, mais surtout par le biais des rencontres. Hans Hermé, bien sûr, et à travers lui un groupe d'artistes et d'intellectuels fondateurs d'une éphémère revue baptisée « Les cahiers vaudois ». On y trouve des peintres, des hommes de théâtre, des écrivains, parmi lesquels Charles-Ferdinand Ramu, qui a vécu plus de 10 ans entre Paris et la Suisse. La guerre l'a contraint à revenir. Il a du temps pour penser, du temps pour écrire, pour rencontrer. La rencontre avec Stravinsky a lieu en octobre 1915, chez lui, à Tréthorens, entre Montreux et Lausanne, au cœur du vignoble de Lavaux. Comme avec Hans Hermé, l'évidence immédiate, celle de deux frères appelés le plus naturellement du monde à partager, à collaborer. On trouvera les mots de Ramu dans « Renard », dans « Noce » et dans « L'histoire du soldat ».
Entre d'Angers de Neuzy, un soldat qui rentre au pays.
J'ai fait, je crois, la connaissance de Stravinsky en 1915, à l'automne. C'était au moment où on venait de finir la vendange dans le hameau de Tréthorens que j'habitais en ce temps-là. C'est entre Cully et Riva, au bord du lac. 3 ou 4 grosses maisons blanches qui sont celles des propriétaires, tandis qu'il y a tout à côté 3 ou 4 autres maisons sans couleur, un seul étage qui sont celles des vignerons. J'étais logé dans une des moitiés de la plus grosse de ces maisons de propriétaires, la plus voisine aussi de l'eau. Et c'est là qu'Hans Hermé me l'avait amené, venant de Montreux, où lui-même dirigeait alors l'orchestre du Kursaal. Je ne savais rien encore de Stravinsky, ou presque rien. Je savais seulement qu'Hans Hermé le tenait pour un grand musicien. Je savais qu'il était russe. Je savais qu'il était l'auteur, entre autres, d'un ballet qui commençait « Tout est un coactif en art » à être fameux. Il s'agissait de Petrouchka. Je savais que des circonstances de famille très urgentes l'avaient fait s'établir 1 ou 2 ans auparavant dans une de nos stations de montagne d'où il venait seulement de redescendre. Voilà pour les circonstances extérieures. De sa personne, j'ignorais tout. Hans Hermé, je l'ai dit, était beaucoup mieux renseigné.
Je me liais donc d'amitié avec Stravinsky et je l'ai introduit, bien entendu, sitôt que j'ai pu, auprès de Ramu et dans nos milieux des cahiers vaudois, avec lesquels il s'est senti tout de suite en profonde sympathie. Ramu soutenait volontiers l'idée que on a trop l'habitude de diviser le monde par des parois verticales, qu'il faut considérer les couches horizontales et que dans les couches horizontales, il y a une couche paysanne qui crée une solidarité entre ces couches d'un pays à l'autre et qui fait, par exemple, qu'un paysan vaudois et un paysan russe sont très proches l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils se sentaient tout à fait d'accord et qu'ils se rencontraient dans les mêmes goûts.
Nous avons lié connaissance devant les choses et par les choses. De nouveau, je ne me souviens plus du tout ce qui fut l'objet de la conversation. Ce dont je me souviens très bien, par contre, c'est de cette parfaite entente préliminaire dont le pain et le vin d'ici furent l'occasion. J'ai pu voir tout de suite, par exemple, Stravinsky, que vous aimiez comme moi le pain quand il est bon. Le vin quand il est bon. Le vin et le pain ensemble, l'un pour l'autre. L'un par l'autre.
Le pain et le vin qui, malgré la guerre et les privations, ne manquent pas autour de la table de Ramul, Ansermet et de Stravinsky. Mais au fur et à mesure que le conflit s'enlise dans les tranchées du nord de la France et que l'issue semble de plus en plus lointaine et incertaine, le moral flanche. La situation des artistes étrangers réfugiés en Suisse devient de plus en plus précaire. Avec la révolution russe de 1917, Stravinsky se voit privé de ses dernières ressources. Il faut agir. Et quel autre moyen d'action pour les artistes que leur art? La légende raconte que ce serait un peu de saucisson froid dégusté sur la terrasse d'un café dans les vignes qui aurait indiqué la voie à suivre. Ramu à Stravinsky, ne trouveriez-vous pas là un modèle de forme musicale, compact, facile à transporter? L'histoire du soldat est née, un conte raconté, joué et dansé avec intervention de musique par un petit ensemble de 7 musiciens à l'image des troupes itinérantes des très tôt médiévaux. On trouve l'argent chez un mécène alémanique, Werner Reinhardt, dont la famille a fait fortune dans le commerce de tissus. Les décors sont signés René Aubergenois, peintre et membre des Cahiers vaudois, et tant pis s'il avoue ne rien comprendre à la musique de Stravinsky. La création a lieu le 28 septembre 1918 au Théâtre municipal de Lausanne. La répétition générale a été catastrophique. On a livré une corbeille à lessive au lieu d'une contrebasse. Stravinsky a accusé Ansermet de l'avoir trahi. Beaucoup de sifflets dans la salle, une critique partagée qui relève en particulier le tour de force du chef vaudois face à une partition hérissée de complications rythmiques et, ironie de l'histoire, la première et dernière représentation. Dès le lendemain, en effet, la troupe est décimée par la grippe espagnole et si la guerre se termine, en Suisse, c'est la grève générale. On envoie même l'armée aux frontières de crainte de voir déferler les réfugiés et les rouges, bien sûr.
Donnez-moi votre violon. Non.
Vendez-le-moi.
Non.
Changez-le-moi contre ce livre.
Je ne sais pas lire.
Vous ne savez pas lire. Ça ne fait rien. C'est un livre. On n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire d'or, des titres, des billets, de l'or.
Faudrait me le montrer d'abord.
Je suis parfaitement d'accord.
À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen d'y rien comprendre.
Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas.
Essayez toujours, ça viendra.
Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs.
Ce que c'est quand même que l'honnêteté. Elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui, profitez-en.
Oh, bien, si vous y tenez tant.
À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31, quel jour est-ce qu'on est? On est un mercredi, le mercredi 28. C'est un livre qui est en avance, c'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle, ça.
Dis donc, tu vas venir chez moi.
Pourquoi faire?
Tu ne vois pas, je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite 2 ou 3 leçons et je te ramène à la maison.
Où est-ce que c'est ça, chez vous?
Tout près d'ici, de tes côtés.
C'est que je n'ai que 15 jours, rien que 15 jours de congé.
Ce sera pour toi à peine un détour. Et puis j'ai ma voiture, tu seras rendu plus vite qu'à pied.
Et ma fiancée qui m'attend.
Puisque tu arriveras à temps.
On sera logés.
Logés, nourris, soignés, rafraîchis, dorlotés. Ma voiture pour te ramener, 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours.
Qu'est-ce qu'on aura à manger?
La cuisine est au beurre et de première qualité.
On aura de quoi boire?
Rien que du vin bouché.
Et on aura de quoi fumer?
Des cigares, à bagues, à papier doré.
Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et il a suivi le vieux chez lui, qui se trouve avoir dit l'exacte vérité. C'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger et a été soigné comme il n'avait jamais été. Et montra au vieux à jouer, et le livre lui fut montré. 2 jours valant bien le détour, puis vint ce matin du 3e jour. Tout à coup, il vit le vieux qui entrait, et le vieux lui dit « Es-tu prêt? Mais d'abord, as-tu bien dormi ?» Et Joseph qui répond que oui. « Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ?» Et Joseph qui répond que oui. « Alors, tu es content ?»« Oh oui !» Eh bien, dit le vieux, allons-y. Ils montèrent dans la voiture partit. Mais tout à coup, Joseph s'accroche des 2 mains au rebord en cuir des coussins. Attention, tiens-toi bien, c'est que mes chevaux vont bon train. Ils voudraient se lever, ils voudraient sauter, pas moyen. La calèche est montée en l'air, elle prend le ciel en travers. Es-tu content? Es-tu toujours content? Elle glisse en l'air au-dessus des champs. Combien de temps? Il n'y a plus de temps. Entre d'Ange et Donne-y, un soldat qui rentre au pays. Jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. être arrivé parce qu'il a beaucoup marché.
Les mots de Charles-Ferdinand Ramu, les notes d'Igor Stravinsky, la direction d'Ernest Ansermet. Ici, comme lors de la création de l'Histoire du soldat à Lausanne en 1918, fruit étonnant, unique, de l'amitié et des circonstances, une guerre qui dure et qui invite à la modestie et à l'ingéniosité, ce qui n'empêche pas l'audace. Ansermet, en 1952, à la tête d'une poignée de solistes de son orchestre de la Suisse romande, fondé dans la foulée de cette création, et de l'acteur Jean Villargile, qui était le diable en 1918 et qui campe ici le lecteur. Michel Schwalbe au violon, qui sera plus tard un des solos mythiques de Karajan à Berlin. Stravinsky, Ramu, Ansermet, ou quand l'art, l'idéal, prend le dessus sur la barbarie, quand le pain, le vin et le saucisson sont plus forts que les canons. La danse russe, extraite du premier tableau de Petrouchka d'Igor Stravinsky, version originale de 1911. Une lecture en 1957 de l'orchestre de la Suisse romande, dirigée par son chef fondateur Ernest Ansermet.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Antonin Scherrer en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Bastien Meucli, Patrick Lérisset et Philippe Palares.